Deutsche Welle. L'Afrique en débat.
Bonjour et bienvenue dans cette Afrique en débat pour un nouveau décryptage de l'actualité africaine. Aujourd'hui, zoom sur l'Égypte, un pays qui vient d'être épinglé par Human Rights Watch. Et pour décrypter la situation sociopolitique en Égypte, en ligne avec nous, Hasni Abidi, chercheur spécialiste du monde arabe et directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, le CERMAM, basé à Genève en Suisse. Monsieur Hasni Abidi, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être en ligne avec nous pour cette émission. Et en studio avec moi, Bob Barry et Ramata Souré de la rédaction francophone de la Deutsche Welle. Bonjour Bob.
Bonjour Georges Ibrahim.
Bonjour Ramata.
Bonjour Ibrahim.
L'Afrique en débat, c'est aussi notre interview. Et aujourd'hui, elle est consacrée à cet ennemi invisible mais omniprésent qui sème l'effroi et la méfiance partout en Afrique de l'Ouest. Il s'agit du virus Ebola. L'espoir d'un traitement est en vue avec ce sérum en cours d'expérimentation. Plus de détails avec Dr Alidou Tinto, espère en essai clinique. À suivre également, toujours concernant ce virus, le coup de gueule de Khalilou Diagana. Nous sommes ensemble pour 25 minutes à ce micro. Georges Ibrahim Tounkara. C'est le nouvel homme fort de l'Égypte depuis un peu plus d'un an et il règne sans partage sur ce pays, à tel point que de nombreux Égyptiens parlent de lui comme du nouveau pharaon. Il s'agit du président Abdel Fattah al-Sissi, un militaire qui a pris le pouvoir en juillet 2013 après avoir destitué l'islamiste Mohamed Morsi, pourtant démocratiquement élu. Même s'il s'est fait légitimer par les urnes en mai dernier, le président al-Sissi inspire cependant de la méfiance chez certains Égyptiens qui parlent même de la naissance d'une nouvelle dictature. Avant de vous retrouver, chers invités, pour vos analyses, je vous propose d'écouter Bichara Kader, professeur spécialiste du monde arabe et musulman à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve en Belgique.
Dictature militaire avec une répression de la liberté d'expression, avec des menaces proférées à l'encontre des journalistes indépendants, avec des poursuites, des détentions qui se poursuivent, notamment dans le camp des frères musulmans. Donc, détention, emprisonnement, torture, disent même certains. Et après la tuerie de Rabia au mois d'août de 2013, qui a touché plusieurs milliers de frères musulmans, beaucoup d'observateurs de la scène égyptienne s'accordent pour dire qu'à défaut d'une dictature en bonne et due forme, il y a à l'évidence en Égypte aujourd'hui un système autoritaire qui rappelle tristement la dictature de Moubarak que les jeunes Égyptiens ont voulu détrôner.
Le professeur Bichara Kader de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve en Belgique. Monsieur Hasni Abidi, vous êtes donc chercheur spécialiste du monde arabe et directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Est-ce que vous partagez ce tableau qui vient d'être dressé par le professeur Bichara Kader sur l'Égypte?
Oui, je partage entièrement son analyse. Je dirais même la situation aujourd'hui, depuis l'arrivée de Sissi, elle est pire que sous Moubarak. Parce que je vous rappelle que sous Moubarak, par exemple, une bonne partie, en tout cas de la classe politique, c'est-à-dire représentée par les frères musulmans, certes, ils n'avaient pas de portée politique, mais ils étaient tolérés et non pas légalisés, c'est-à-dire qu'ils avaient une présence dans le Parlement et donc il y avait plusieurs soupapes sous Moubarak. Aujourd'hui, la situation elle est pire parce que, contrairement à la feuille de route proclamée et annoncée par le général Sissi, les islamistes, c'est-à-dire une bonne partie de la société égyptienne, sont complètement...
Alors, nous avons quelques difficultés de liaison avec le professeur Hasni Abidi. Nous espérons que la ligne va se rétablir et qu'elle sera bonne. Avant de retrouver le professeur Hasni Abidi, Bob, un mot sur cette situation qui prévaut aujourd'hui en Égypte.
Une situation dramatique. Le professeur Bichara Kader le disait, mais aussi notre interlocuteur Hasni Abidi le disait. Il y a depuis donc l'arrivée au pouvoir du général Al-Sissi, donc qui a destitué le président démocratiquement élu, qui était donc Mohamed Morsi. On parle de plus de 15 000 frères musulmans et sympathisants qui croupissent dans les prisons égyptiennes. Et depuis donc la tentative de revenir au pouvoir par les frères musulmans. musulmans, il y a plus de 700 personnes dans les rangs des frères musulmans qui ont été massacrées. Et un an après donc, la destitution du président Morsi, aujourd'hui on parle de plus de 1400 morts. Et donc vous avez vous-même cité
Human Rights Watch, qui a été publié cette semaine.
Le rapport de Human Rights Watch qui a été publié cette semaine. Personne ne dénonce, sinon quelques ONG qui osent dire quelques mots sur la gestion catastrophique du pouvoir par Al-Sisi. Ces ONG, d'ailleurs, sont, si elles ne sont pas interdites de travailler en Égypte aujourd'hui, elles sont interdites de fouler le sol égyptien. On a vu le dernier, quand on voulait publier le dernier rapport, le responsable en chef de Human Rights Watch a été interdit d'arriver au Caire. Donc, c'est un régime féroce, c'est un régime qui tue ses propres populations, qui interdit des mouvements politiques.
Ramata, oui, un mot sur cette situation en Égypte. Comment pourrait-on l'expliquer, ce durcissement du régime égyptien sous le général Al-Sisi?
Mais Al-Sisi a prévenu tout le monde lorsqu'il faisait sa campagne. Il a dit qu'il faudra 20 à 25 ans pour rétablir la démocratie au niveau de l'Égypte. Donc, il a prévenu tout le monde. Et le jour du massacre sur cette place-là qui a eu lieu il y a un an de cela, il a envoyé des soldats sur cette place-là et il a dit « libérez les lieux ». Mais c'est comme les gens étaient mobilisés, ils étaient dans l'engouement, ils n'ont pas prêté attention à ce qu'ils se disaient et malheureusement, ils ont été massacrés comme des poulets. Et c'est vraiment regrettable parce que il a allé encore plus loin en disant qu'il faut 20 à 25 ans pour qu'il y ait encore la démocratie en Égypte. C'est pour cela qu'il a complètement éradiqué le parti des frères musulmans parce qu'il y a moins d'une semaine de cela, la Cour a pris une décision interdisant de façon officielle les frères musulmans comme un parti politique. Et on sait que bien avant ça, ça a été interdit comme organisation caritative au niveau du pays.
Monsieur Hasni Abidi, vous êtes en ligne, je crois, monsieur Hasni Abidi.
Oui, je suis là.
Voilà. Est-ce qu'on peut parler de déception chez les révolutionnaires égyptiens avec tout ce qui se passe en ce moment en Égypte?
Oui, il y a une grande déception, il y a même une grande illusion parce que c'est vrai qu'une grande partie a soutenu donc l'arrivée de Monsieur Sisi. Elle a servi comme alibi, bien sûr, pour cette fameuse manifestation qui a ouvert la voie à l'arrivée de Sisi et qui est un coup d'État et l'arrestation de l'ancien président Morsi. Mais après les procès, les arrestations contre plusieurs mouvements. Par exemple, le mouvement de 7 avril, le mouvement Nous sommes à Alexandrie, plusieurs mouvements donc, d'opposition de gauche comme de droite, surtout des mouvements de jeunes. Il y a aujourd'hui une illusion, mais une volonté de faire marche arrière. Et en même temps, ils savent qu'aujourd'hui, ils sont face à deux situations très difficiles, c'est-à-dire les islamistes avec cette fuite en avant et bien entendu aussi avec un pouvoir militaire qui aujourd'hui veut même réhabiliter les anciens du régime. On a bien vu la tribune qui a été offerte hier à Moubarak dans plusieurs télévisions, ce qui montre, c'est vrai, que le pouvoir veut même libérer les anciens de d'anciens Moubarak, ce qui constitue un retour en arrière, ce qu'on appelle d'ailleurs la mise à jour de l'autoritarisme encore plus pénible, en tout cas pour le camp démocrate qu'auparavant.
Qu'en est-il du mouvement révolutionnaire? Est-ce qu'on peut dire que la révolution en Égypte a pris fin? Que devient le mouvement révolutionnaire?
Alors c'est très difficile parce que je n'étais pas favorable à cette appellation de révolution. C'était un soulèvement populaire parce qu'une révolution c'est la fin ou la rupture totale, la fin de système politique. Ce qui s'est passé avec Moubarak, souvenez-vous, c'était l'armée égyptienne était contrainte devant l'ampleur des manifestations à sacrifier la tête du régime, M. Moubarak, pour pouvoir garder ses privilèges et garder la main sur les affaires économiques. L'armée égyptienne contrôle entre 35 et 45% de l'économie égyptienne. Donc on a sacrifié la tête du régime, mais pour sauvegarder le système politique égyptien. Et on l'a bien vu avec le retour de M. Sisi, que finalement l'armée n'a jamais disparu de la scène politique, elle est restée presque intacte, je dirais même encore plus forte qu'auparavant.
Bob, on en parlait tout à l'heure, hein, la dissolution du Parti Liberté et Justice, le parti proche des frères musulmans. Est-ce qu'on peut dire que ça n'est fini aussi des frères musulmans?
Mais si c'est pas fini, en tout cas, ils ont été réduits à leur strict minimum, parce que vous voyez combien de personnes sont emprisonnées, combien de personnes n'osent plus sortir dans la rue pour protester ou pour réclamer le retour d'un président qui avait été démocratiquement élu et pu renverser par un coup de force. Mais aussi, il faut pas oublier que quand Morsi était arrivé aussi au pouvoir, il faut pas l'occulter, il y a eu beaucoup d'erreurs de commises par les frères musulmans, notamment dans le choix des personnes à des postes stratégiques, et après la peur a envahi le peuple égyptien par aussi une certaine forme de désinformation qui a été véhiculée par des médias interposés, et c'est cela aussi le lourd tribut qui a été affligé au régime de Mohamed Morsi. On a affaire vraiment à une situation difficile où les frères musulmans vont avoir du mal à revenir aussi rapidement.
Un mot sur les frères musulmans, Ramata.
Je dirais que même si ça va prendre du temps, ce mouvement-là va revenir. Parce que lorsqu'on dit lorsqu'il y a action, il y a réaction. Ce n'est pas parce que ce mouvement a été décapité que le mouvement ne va pas renaître. Le mouvement va renaître, mais en s'adaptant et en prenant du temps pour échanger. Et ça me fait penser un peu à ce que Mandela a dit. L'oppressé s'adapte à la tactique de l'oppresseur. Et on a vu, avec le cas de Mandela, qu'ils ont lutté, ils ont été brimés, il y a beaucoup qui ont été tués. Mais au finish, qui a gagné? C'est la liberté qui a gagné.
Un mot sur les frères musulmans, M. Hasni Abidi. Est-ce que le mouvement accuse le coup aujourd'hui?
D'abord, il y a une chose, c'est qu'il y a une mobilisation remarquable. J'étais récemment en Égypte, dans des localités bien reculées en Égypte. Presque tous les vendredis, il y a des femmes et des hommes qui se ressemblent et qui font des manifestations. C'est vrai, pas de grande ampleur, et qui dénoncent le coup d'État militaire et qui veulent la libération de leurs proches. Donc, en fait, la détermination, elle est intacte. Le deuxième élément, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, la décision prise la semaine dernière d'interdire définitivement le parti, donc Justice et Liberté, qui est le bras politique des frères musulmans, c'est un coup dur. Et c'était une décision attendue après avoir déclaré par le gouvernement égyptien que l'organisation des frères musulmans, qui est l'émanation, qui est la mise en tutelle de ce parti, était une organisation terroriste. Donc comment voulez-vous une partie du peuple égyptien, 20%, 15%, 30%, qui pousse ces idées-là? Parce que les frères musulmans, d'abord, c'est une pensée, c'est pas seulement un parti politique. Mais en les mettant hors légalité, ça veut dire qu'il y a une régression et que l'avenir des frères musulmans passera certainement par une théorie à somme nulle, c'est-à-dire le départ de général Sisi ou bien la disparition des frères musulmans pour un certain moment, à moins que le gouvernement accepte un autre parti politique, c'est-à-dire une autre appellation, ce qui me semble un peu difficile.
Voyons maintenant comment la communauté internationale réagit face à la situation sociopolitique en Égypte. Bob, comment peut-on analyser cette réaction de la communauté internationale, surtout du principal soutien de l'Égypte, les États-Unis?
On a vu que c'est de la mollesse. De toutes les façons, les Américains préfèrent un dictateur entre guillemets doux aux frères musulmans islamistes qui menacent les intérêts des États-Unis dans le
et
monde arabe.
Les intérêts même d'Israël.
D'Israël, c'est de la géostratégie. L'Égypte constitue un pont entre le Proche et le Moyen-Orient, mais aussi c'est un pays sur lequel la communauté internationale, les États-Unis notamment, se sont beaucoup investis, appuyés pour contrôler la région. On a vu d'ailleurs dans le conflit israélo-palestinien aujourd'hui, c'est ce même général Al-Sisi qui devient
le médiateur,
l'interlocuteur, et on a besoin de lui justement pour qu'il continue à jouer ce rôle. Par contre, c'est traumatisant parce que nous avons vu une institution comme la CPI sévir en Afrique noire. Il y a eu quelque part un massacre au stade de 28 septembre de Conakry, où il y a eu 150 personnes de tuées, et on a vu tout le tintamarre qui avait été
la réaction de la CPI, même au plan international.
Sur le plan international. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on dénonce toujours, cette politique de deux poids, deux mesures.
Ramatan, un mot donc sur l'attitude de la communauté internationale, cette réaction notamment des États-Unis vis-à-vis du pouvoir égyptien.
Par rapport à ce que Bob vient de dire, je dirais, et je conclurai par là, les pays qu'on appelle les puissances internationales n'ont pas d'éthique. Ils n'ont que des intérêts. Et ces intérêts-là ne sont pas basés sur la justice.
Sur l'équité.
L'équité.
Non.
Oui, et la morale. C'est simplement leurs intérêts. Point.
Alors, sur la question, on vous retrouve tout à l'heure, M. Hasni Abidi. On va écouter d'abord l'analyse de M. Bichara Kader. On a vu le président Al-Sisi en déplacement il y a quelques jours en Russie. Alors là-dessus, on écoute M. Bichara Kader, professeur à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve.
Écoutez, il y a de plus en plus de voix à Washington, comme d'ailleurs dans les organisations de défense des droits de l'homme, qui s'élève aujourd'hui pour dénoncer ce qui leur apparaît comme une dictature, une nouvelle dictature naissante en Égypte. Par conséquent, le général Sisi est en train de revoir les alliances de l'Égypte, de revitaliser les relations entre l'Égypte et la Russie. Je suis persuadé qu'il va ouvrir des canaux de communication avec l'Inde, avec la Chine, et aujourd'hui, il essaie de renforcer ses relations avec l'Arabie saoudite, qui est finalement la puissance régionale qui aujourd'hui aide financièrement le nouveau pouvoir en Égypte, dans la mesure où pour l'Arabie saoudite, il vaut mieux avoir une Égypte stable et sûre, y compris sous l'égide de généraux peu démocratiques, que d'avoir une Égypte instable et qui, naturellement, peut de proche en proche déstabiliser l'Arabie saoudite.
Alors, une réaction à tout ce que vous venez d'entendre, M. Hasni Abidi, une réaction à cette attitude de la communauté internationale, notamment des États-Unis vis-à-vis du pouvoir égyptien et de cette amitié que l'Égypte tente de consolider avec la Russie.
Oui, d'abord, les Égyptiens veulent diversifier la relation diplomatique et envoyer un message aux Américains pour leur dire si vous nous abandonnez, vous nous lâchez, on a d'autres alternatives. Mais il s'agit d'une guerre de communication plus qu'une politique profonde, parce que l'Égypte ne peut pas s'en passer des aides financières données par Washington. En revanche, ce qui a fait peur aux pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui sont devenus aujourd'hui des vrais bailleurs de fonds d'Égypte, c'est bien entendu la poussée des frères musulmans qui fait peur à ces monarchies, à des dictatures comme l'Arabie saoudite et vous avez vu ce qui se passe aussi dans un pays comme les Émirats arabes unis. Et c'est vrai que les frères musulmans ont commis cette erreur de dire qu'ils seraient aussi tentés par une expansion au-delà de leurs frontières. Et du coup, l'Arabie saoudite, qui souffre un petit peu de cette même mise de la famille Al-Saoud, a préféré anticiper ça et soutenir le général Sisi pour mettre fin aux ambitions du frère musulman. Mais encore une fois, le général Sisi bénéficie d'un contexte régional qui lui est favorable avec ce qui se passe en Syrie, avec ce qui se passe en Irak, et le rôle classique, traditionnel, de gendarme, ou j'allais dire d'arbitre, que joue d'ailleurs l'Égypte avec Israël.
Merci pour vos différents éclairages sur la situation sociopolitique en Égypte. L'Égypte, on en reparlera certainement dans un autre Afrique en débat ou même dans nos journaux. Merci à vous, M. Hasni Abidi. Je rappelle que vous êtes chercheur spécialiste du monde arabe et directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, basé à Genève, en Suisse. Merci à vous et très bonne journée. L'Afrique en débat, toujours avec moi en studio, Bob Barry Ramatasoré de la rédaction francophone de la Deutsche Welle. On parle maintenant de ce nouveau tueur redoutable qui traumatise toute l'Afrique de l'Ouest. Vous l'avez certainement deviné, il s'agit du virus Ebola. Plus de 1000 morts en 8 mois d'épidémie. Un bilan qui pourrait hélas s'alourdir vu qu'aucun traitement véritable n'existe à ce jour. Le seul espoir, c'est ce sérum en expérimentation aux États-Unis et qui vient d'être livré au Libéria avec l'aval de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et Ramata Souré, c'est vous qui aviez interrogé le professeur que nous allons entendre tout à l'heure, le docteur Alidou Tinto, expert burkinabé en essai clinique. Vous avez espoir à la mise sur pied d'un véritable sérum contre Ebola?
Oui, je pense, oui. Un remède curatif et préventif. Et ce qui me choque, c'est que c'est après au moins 40 ans qu'on a découvert ce virus mortel-là que les gens se mettent maintenant à réagir et disent qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de sérum, il n'y a pas de vaccin.
Alors, on verra des précisions hein, sur tout cela peut-être dans les semaines à venir. Mais avant, je vous propose d'écouter les explications du docteur Alidou Tinto, expert burkinabé en essai clinique sur donc, ce sérum en cours d'expérimentation.
Ce genre de tests-là se font dans les cas où la probabilité de mourir de la maladie est tellement élevée. Dans Ebola, c'est plus de 60%. Donc, on est dans une situation où on n'a presque rien à faire. Ça veut dire que soit on essaye et ça marche, ou soit on essaye et ça accélère la mort de la personne parce que le sérum n'est pas bon, ou on essaye et ça laisse des séquelles, ou on n'essaye pas et puis la personne meurt. Donc, on appelle ça dans les essais cliniques des essais compassionnels.
Ça veut dire que c'est des situations dans lesquelles le risque de mourir de la maladie est tellement élevé qu'il n'y a plus rien à perdre que d'essayer. Parce que au Libéria, c'est eux-mêmes qui ont demandé aux États-Unis s'ils pouvaient mettre à leur disposition ce sérum-là qu'ils sont en train de tester pour qu'on l'applique parce que la maladie fait des ravages en Afrique. Les Américains sont embêtés. C'est pourquoi Barack Obama a dit « Laissons la décision aux chercheurs. Ce n'est pas politique. » Parce que dans la recherche, il y a des étapes par lesquelles il faut absolument passer avant de tester un médicament à grande échelle sur des êtres humains. Et surtout que, dans le principe, on dit qu'en période d'épidémie, on ne doit pas conduire d'essais cliniques. C'est pourquoi, lors de l'épidémie de méningite au Nigeria, quand Pfizer avait testé son produit, ça avait fait un tollé. Pfizer a été traîné justement en justice parce qu'en période d'épidémie, les gens sont vulnérables, ils sont faibles, ils sont désorientés. Et en ce moment, on peut profiter de cette désorientation, de cette situation de détresse-là pour tester des produits qui, en temps normal, ne peuvent pas être testés. Donc, c'est clair, on dit qu'il ne faut pas faire. Et là, on est dans une maladie où tu as 60 à 70% de risque de mourir, même 80% de mourir si tu attrapes la maladie. Est-ce qu'il vaut mieux tester un produit qui a fait ses preuves chez les singes en se disant de toute façon, la probabilité que tu meurs reste, va être élevée et par miracle, on arrive à te sauver? Moi, je dirais que c'est une question de jurisprudence et on doit prendre une décision orientée par le bon sens parce que là, ce n'est plus l'éthique. Parce que si on reste dans le cadre strict de l'éthique, on ne le fera pas. Mais on est dans une situation où tu dis, bon, si j'applique l'éthique, je ne ferai pas, mais en ne faisant pas, la personne meurt. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'observe et je suis sûr qu'à 80%, le gars va mourir ou bien je prends le risque en ne sachant même pas, bon, si mon médicament marche ou pas, mais si ça marche, j'ai la chance de sauver la personne. Donc, voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et moi, en tant que chercheur qui travaille dans le domaine des essais cliniques, moi, j'irai pour qu'on teste ce sérum-là, même s'il n'a pas franchi toutes les étapes, qu'on outrepasse la question éthique, parce qu'il s'agit de sauver des vies de personnes. Et moi, je pense qu'il faut leur donner toutes les chances qui existent pour les sauver.
Alors, pourquoi l'OMS a dû donner son accord pour cet essai?
En fait, l'OMS est un peu aussi embêtée parce que l'OMS se trouve dans une situation où elle a la responsabilité de s'assurer que cette épidémie ne va pas aller à s'aggravant. Si on peut déjà circonscrire actuellement le rayon d'évolution de cette épidémie, alors tous les moyens qui existent aujourd'hui, l'OMS ne va pas s'en passer. Et je crois que c'est une question de responsabilité.
Le docteur Alidou Tinto, expert burkinabé en essai clinique, une réaction à cette polémique hein, sur ce traitement, sur cet essai baptisé donc le ZMAP Bob.
Moi, ce que je dis, et je le répète, il ne faut pas céder à la panique. C'est une maladie qui tue en Afrique, c'est vrai. Il y a des gens qui ont été sauvés de cette épidémie hémorragique sans avoir eu recours à ce sérum. Hein, tout dépend de l'aspect hygiène, aspect isolement, aspect contrôle.
La prévention.
La prévention, aspect aussi gestion de la maladie et des malades qui sont internés dans des centres bien protégés.
Et on parle encore d'Ebola avec le coup de gueule de Khalilou Diagana. Où sont les chercheurs africains dans la lutte contre cette épidémie qui dure depuis plus de 30 ans? Khalilou Diagana.
Décret portant état d'urgence sanitaire, fermeture des frontières, délocalisation des matchs de football, la seule réponse face à Ebola, c'est la panique. La panique car depuis 1976, date d'identification du virus, presque rien n'a été fait en Afrique pour trouver un traitement adéquat. Les chercheurs africains sortent avec leurs collègues américains, français ou chinois des plus grandes universités du monde. Comme leurs collègues, ils sont intellectuellement outillés pour travailler. Mais une fois au pays, le biologiste, botaniste, ingénieur africain se retrouve sur un grand fauteuil dans un bureau climatisé face à la paperasse. Les dirigeants du continent, réunis à Addis Abeba, ont proclamé 2007 année de la science. Ils y avaient demandé à tous les pays de consacrer d'ici 2020 au moins 1% de leur PIB à la recherche scientifique et au développement. Ça n'a été hélas qu'une proclamation de plus. La recherche scientifique fait partie des parents pauvres des politiques de développement du continent. Les quelques rares illuminés qui s'obstinent à faire de la recherche leur activité principale finissent par ôter la blouse blanche, faute de moins.
Le coup de gueule de Khalilou Diagana sur le virus Ebola. Et notre coup d'œil à présent sur quelques événements à venir. Ce lundi 18 août à Tripoli, en Libye, nouvelle audience dans le procès d'une quarantaine de dignitaires de l'ancien régime de Muammar Kadhafi, dont son fils Seif al-Islam. Ils sont poursuivis pour leur rôle dans la répression meurtrière de la révolte ayant mis fin à l'ancien régime libyen en 2011. Le mercredi 20 à Brazzaville, fin du procès de l'ex-colonel Marcel Nsourou, ancien numéro 2 des services du renseignement congolais, jugé pour rébellion et atteinte à la sûreté de l'État. Un procès que suivait notre correspondant à Brazzaville, Olivier Otou, mort il y a quelques jours et à qui nous rendons hommage. Nous avons pour lui une grande pensée et nous exprimons également nos condoléances à sa famille. Voilà, l'Afrique en débat, c'est tout pour aujourd'hui. Une émission au cours de laquelle nous avons longuement parlé de la situation sociopolitique en Égypte ainsi que du virus Ebola. Merci de nous avoir suivis et à samedi prochain pour un autre numéro de l'Afrique en débat.